donc Arnaud nous a partagé sur la croix, l'importance de la croix et ce que le Seigneur a déjà accompli il y a plus de 2000 ans. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur, juste avant la croix, où Jésus est entré à Jérusalem sur son ânon, et ensuite, qu'est-ce qu'il a pu faire aussi par la suite? Vous savez qu'en ce moment, l'Église invite, enfin les responsables de l'Église a invité à toute l'Église de lire dans l'Évangile de Marc pour peut-être imprégner de ce que le Seigneur Jésus a fait en nous, enfin pour nous aussi déjà, et que on est vers la fin de la lecture, puisque cette semaine c'est la dernière partie où nous allons lire Jésus crucifié, etc., et ressuscité. Donc dans ce cadre de lecture, cette semaine, c'est à partir de chapitre 11, et j'ai choisi donc quelques versets où Jésus donc est entré à Jérusalem et quelques histoires que le Seigneur Jésus a pu vivre à ce moment-là. Donc le lendemain, j'aimerais vous lire tout d'abord dans chapitre 11 à partir de verset 12. Il y a deux événements que nous allons voir, c'est l'histoire de figuier et l'histoire où Jésus entre dans le temple et il voit les vendeurs des animaux et il se met en colère. C'est ce que nous allons voir ce matin. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit !» Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit ?» Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Par la suite, le lendemain, les disciples passent devant le figuier, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le figuier desséché jusqu'à la racine. Voilà donc jusqu'ici notre histoire. D'abord, l'histoire de figuier. Voilà une histoire qui est étrange et difficile à comprendre à première vue. Seigneur Jésus avait faim et il demande à figuier de porter du fruit alors que ce n'était pas la saison. De plus, après avoir observé qui ne portait pas de fruits, il le maudit. Et le lendemain, voilà, l'arbre est desséché jusqu'à la racine. Autrement dit, il ne lui donne aucune chance de se rattraper, de survivre. Mais nous voyons en fait que Jésus avait déjà raconté une parabole par rapport à un figuier. Par exemple, dans Luc 13, on voit un vigneron s'occuper d'un figuier depuis 3 ans. Et il ne trouve pas de fruits. Alors le propriétaire de ce figuier demande à ce vigneron de couper cette vigne. Alors le vigneron lui dit, « Maître, laisse-le cette année encore. Je vais creuser la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Et malgré cela, s'il ne donne pas de fruits, tu le feras couper. » Voilà, donc ça c'est une autre histoire, une autre parabole où Jésus raconte que voilà, il y avait un arbre figuier qui ne portait pas de fruits. Finalement, on lui donne encore une chance et que le vigneron travaillerait tout autour, tous les jours, pour que ce figuier porte de fruits. Alors que dans le cas d'aujourd'hui, dans chapitre 11, Jésus est catégorique. Il dit, ce figuier-là, il n'a pas porté de fruits, hop, disparaît. Maudit. Maudit sois-tu. Alors, je me suis renseigné sur cet arbre fruitier. Vous savez, il existe des centaines de variétés de figuiers. D'abord, les variétés bifères, qui donnent 2 récoltes dans l'année. Et puis, les variétés unifères qui ne fructifient qu'à l'automne, une fois. En Palestine, c'est encore autrement, car il y a trois saisons apparemment. Et puis, j'ai vu aussi que tous les figuiers ne donnent pas de fruits comestibles. Seuls les figuiers femelles donnent des figues comestibles. Pour les figues comestibles, on voit apparaître des figues fleurs déjà en automne qui mûriront l'été suivant, c'est-à-dire il y aura toujours, c'est-à-dire qu'au moment où Jésus passe devant ce figuier, il aurait dû avoir des figues, pas forcément matures, mais des figues. Bref, la scène racontée par l'évangile de Marc semble se passer au printemps. Et en printemps, on aurait dû en tout cas avoir des figues, en tout cas une apparence. Or, Marc ne dit pas que les figues n'étaient pas présentes à ce moment-là. Et surtout, ce que nous pouvons constater à travers cette histoire, c'est que ce figuier était un arbre stérile. Du coup, Jésus se montre assez sévère par rapport à cet arbre. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Voilà, on sait très bien que là, Jésus, maintenant, il va bientôt mourir. Il sait que dans quelques jours, dans 3-4 jours, il va mourir sur la croix. Donc ça, c'est vraiment une des dernières. Il va enseigner plusieurs choses, il va parler aussi d'autres paraboles, mais là, il est en train de vivre, enseigner quelque chose à ses disciples. Pourquoi il parle de ce figuier? Tout d'abord, à travers cet événement, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? C'est que Jésus est le Seigneur de toutes choses. Il est le Créateur, le Juge, le Souverain de toutes choses. Il maîtrise la nature, c'est ce que nous voyons ici. D'ailleurs, on l'a déjà vu dans Marc 4, où les disciples avec Jésus étaient dans la barque, il y avait une grande tempête, ils ne savaient pas quoi faire, et puis il appelle Jésus, au secours. Et Jésus se lève et il dit, tais-toi, face au vent, et la nature se tait. Ils sont émerveillés par la puissance de Jésus. En tout cas, ce que nous voyons, c'est que oui, Jésus a plusieurs fois montré qu'il était au-dessus de la création, puisqu'il était lui-même le Créateur. Dans Jean 1, il est écrit « Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà, et celui qui est la parole était avec Dieu. » Ce Jésus était déjà avec Dieu. Il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Oui. Dans Jean 1, on parle bien de Jésus, parole faite de chair. Ce Créateur, donc, lorsqu'il a observé ce figuier qui ne portait pas de fruits, qui n'assumait pas son rôle, ben, il le juge. Il le juge, il le punit même. Deuxième point, Jésus avait faim. Jésus aussi a faim. Il attend, d'une certaine manière, une réponse de sa création. Cet événement nous montre que lorsque Dieu a faim de l'amour de son peuple, il en demande aussi. Il en demande. Nous allons maintenant voir l'événement, l'histoire où Jésus entre dans le temple. Il avait aussi faim de l'amour de son peuple. Il entre dans le temple pour rencontrer son peuple, pour trouver les adorateurs qui le louent en esprit, en vérité. Et qu'est-ce qu'il trouve? Ben, il trouve des bandits. Il trouve des marchands qui sont là pour vendre les animaux. Et il les chasse de ce temple. Il est choqué, oui, il est choqué de les retrouver dans le temple même. Car le temple est devenu un bazar camouflé par des raisons culturelles, mais un bazar. On pourrait se dire, mais eux, ils avaient quand même des excuses, parce que, vous savez, une fois par an, tous les Juifs venaient à Jérusalem, dans tous les diasporas. C'est-à-dire que les Juifs qui étaient en Égypte, les Juifs qui étaient en Babylonie, qui étaient dispersés dans le monde entier, se retrouvaient une fois par an à Jérusalem. Donc, ils ramenaient, parfois, les courageux venaient avec leurs animaux pour le sacrifice, pour la purification de leurs péchés. Mais ceux-là, c'était des gens qui étaient tout près de Jérusalem. Mais ceux qui étaient loin, ben, imaginez les animaux qui sont sur le pendant le voyage estropiés ou devenus malades, ils ne pouvaient pas sacrifier ces animaux. Du coup, ils venaient avec leur argent, l'argent de leur pays. Donc, lorsque tout le monde se retrouve à Jérusalem, c'est normal d'acheter des animaux. C'est comment on dit ? C'est pas légal, mais il n'y a pas un autre mot. C'est légitime, voilà. C'est légitime d'acheter des animaux. Les taureaux, pour les plus pauvres, les pigeons, c'est normal. Et puis, c'est normal aussi d'avoir des échangeurs de monnaie, puisqu'ils avaient leur argent qui venait de l'Égypte ou de la Babylonie, donc il fallait forcément changer. C'est normal de retrouver toutes ces personnes, mais voir dans le temple, et puis surtout, vous savez, les sacrificateurs, en faisant entrer tous ces vendeurs, tous ces échangeurs dans le temple, ils recevaient aussi des commissions. Donc, ils se faisaient aussi de l'argent, tous ces religieux. C'est pour ça que Dieu se mettait en colère, parce que l'Église est devenue un bazar, un magasin où on gagnait de l'argent, alors que l'Église doit être d'abord une maison de prière, une maison où les gens rencontrent le Seigneur véritablement, pas de manière apparente. C'est pour ça qu'il se mettait en colère. C'est pareil aussi avec le figuier. Le figuier était d'apparence très flamboyant, mais en tout cas beau à voir de l'extérieur, avec des beaux feuillages. Mais lorsqu'il s'était approché pour prendre des figues, il n'y avait pas le contenu. Le rôle de figuier était de porter des fruits, non pas être beau à voir. D'ailleurs, avec l'arbre de figuier, on ne peut même pas faire de bois, hein, on ne peut même pas faire de bois de construction, etc. Son seul but, son seul objectif était de faire des fruits, de porter des fruits. C'est pour ça qu'il juge, qu'il... D'ailleurs, je reviens encore à cette histoire de colère de Jésus par rapport à ces voleurs, des brigands qui étaient dans le temple. Il appelle une caverne, là où il y a plein de voleurs qui volent, qui tuent pour mieux vivre. Et puis, cette histoire où il se met en colère contre tous ces marchands n'était pas la première fois. Parce que j'aimerais vous rappeler que lorsque Jésus commence son ministère avec le miracle à la noce de Cana, juste après, il entre dans le temple. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit exactement la même scène et il se met en colère aussi pareil. Mais encore, pour la première fois, c'était beaucoup plus violent. Non seulement il les chasse, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il fabrique un fouet avec des cordes et il les chasse tous du temple, ainsi les brebis, les bœufs, il disperse la monnaie des changeurs et il renverse les tables, etc., etc. On voit une certaine violence de sa colère contre ce bazar. Et puis il veut vraiment purifier. Son but, c'était de purifier le temple. Son but, c'était vraiment que l'Esprit réside, que la recherche de Dieu soit présente dans le temple. C'est vrai, maintenant, le temple n'existe plus, puisque en l'an 70, ça a été complètement détruit. Et d'ailleurs, le Seigneur, à travers cet exemple, veut nous montrer que le temple n'est pas fait de main d'homme. Dans 1 Corinthiens 3,16, il est dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Oui, nous formons le temple de Dieu. Puisque à partir du moment où nous avons accepté le Seigneur, puisque Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous avons accepté ce Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu entre en nous, il désire demeurer en nous, cohabiter en nous, avec nous en tout cas. Et c'est comme ça que nous formons un temple. Et comme le Seigneur vient de montrer, il veut purifier ce temple. Il veut purifier ce temple. Oui, l'Esprit de Dieu n'est pas enfermé dans un temple, mais il est dans notre cœur, où qu'on soit, C'est-à-dire que nous, lorsque nous sommes dans le désert, le Seigneur est avec nous. Lorsque nous sommes au travail, le Seigneur est avec nous. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, le Seigneur est avec nous. Dans ce temple, dans son temple, avec, à travers l'Esprit de Dieu qui réside dans notre cœur. Mais cependant, Dieu nous avertit en disant que dans les derniers temps, ce sera difficile de trouver des gens pieux, car les hommes seront égoïstes, d'après 2 Timothée 3. Les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et surtout, il est dit encore, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, ayant l'apparence de piété. Cette semaine, Laetitia m'a dit, regarde ce que j'ai trouvé là, un petit, pas reportage, mais en tout cas quelque chose. Alors, j'ai pu observer, elle m'a raconté en fait qu'il y a un chrétien prend des photos des grands prédicateurs aux États-Unis. Et puis, il a essayé de décortiquer combien ça coûte ce qu'ils portent, que ce soit leur t-shirt, leur basket, et puis leur ceinture. Et c'était étonnant. J'ai pu aussi voir par la suite. Donc, il y a un pasteur qui portait un basket Louis Vuitton qui coûtait 1 020 $. Un basket de Jordan Dior qui coûtait 8 100 $. Un t-shirt 1550, un manteau Louis Vuitton 10 000 $, une ceinture de 2 500 $. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit, mais c'est ça en fait l'apparence de piété. Nous avons aussi l'apparence de piété parfois, et puis au fond, est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? Est-ce qu'ils sont vraiment, ils sont vraiment des hommes de Dieu? Après avoir dépensé autant d'argent, vous vous rendez compte, 10 000 $, ça pourrait être le salaire d'une personne de 10 mois. Hein? J'ai été frappé, stupéfait par cet exemple. Oui, le figuier avait beaucoup de feuilles, mais sans fruits. Et Dieu cherche des gens qui ont vraiment la vraie foi, la vraie foi. La question que Dieu nous pose aujourd'hui, ce matin, c'est bien de venir à l'église, c'est bien de respecter certaines consignes de la part de ta part en ayant lu ma parole. Mais qu'est-ce qui a changé après? Entre savoir et faire, c'est deux choses différentes. Est-ce que nous sommes maintenant devenus un chrétien converti qui montre l'exemple ou on traîne encore? Je pense que j'avais déjà donné un exemple de cet homme que j'ai connu il y a très très longtemps. C'est un homme qui avait tout perdu. Il était il n'avait rien, il avait vraiment tout perdu, dans le désespoir total. L'Église l'avait accueilli, l'a soutenu en tout point, que ce soit matériel, financier, etc., pour l'aider à se reconstruire. Lui qui n'avait rien a rencontré donc notre Église, il a pu former aussi même une famille. D'ailleurs, c'était une femme dévouée, formidable. Ils se sont mariés, ils ont eu un enfant. Il a trouvé un travail qui lui convient, qui lui a rapporté pas mal d'argent. Donc, on était vraiment très heureux pour cette famille, très heureux pour cette famille. Mais en fait, par la suite, nous avons su que la raison de sa venue dans l'église était juste pour profiter. Et une fois qu'il a trouvé l'aisance financière, Une fois qu'il pouvait être indépendant, une fois qu'il pouvait être solitaire, enfin seul, ben, il a abandonné sa femme, il a abandonné son fils, il a abandonné l'Église pour aller vivre avec une autre femme. Il a tout abandonné, sa foi n'était pas véritable. Et même lorsque je l'ai revu par la suite, il m'ignorait comme si je ne le connaissais pas, on ne se connaissait pas. Je me demande si vraiment, je me suis dit, celui-là, il avait sûrement l'apparence de la piété à ce moment-là, à un moment donné, mais finalement, ce n'était pas du tout la vraie foi. Le Seigneur cherche des gens qui ont vraiment la vraie foi. La vraie foi, c'est une question qu'on doit se poser. Alors, qui sont les gens qui avaient la vraie foi? Après cet épisode, Jésus, avant de sa crucifixion, il raconte quelques histoires intéressantes. D'abord, il raconte Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre femme, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle était quelqu'un qui avait la foi en Dieu, qui voulait vraiment le servir. Elle a mis de tout son cœur. Et puis, il donne aussi encore un autre exemple. Dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra. Donc, c'est juste avant la crucifixion. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait une vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » Le Seigneur l'avait inspiré pour qu'elle verse cette huile qui valait 300 deniers, c'est-à-dire que un denier, c'était le salaire d'une journée. Donc, 300 deniers, ça valait vraiment quelque chose de très, très cher, mais elle a versé pour embaumer le corps de Jésus pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. On ne sait même pas son nom, cette femme. C'est juste une femme qui entre. Et puis, elle a été inspirée par le Seigneur, édifiée par lui, inspirée par l'Esprit de Dieu, et elle a décidé de verser son huile très précieuse sur la tête de Jésus. Parfois, on se dit, bon, j'aimerais servir le Seigneur, je vais être un bénévole pour quelque chose, ou je vais vraiment, j'aimerais vraiment servir Dieu. Et dans notre enthousiasme, il y a des gens comme ça qui sont là à côté en disant que... Mais quelques-uns s'exprimaient entre eux avec indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On veut vraiment bien faire pour le Seigneur et il y a toujours des barrières, des obstacles qui sont là pour nous décourager. Et ils ont aussi parfois des bons arguments en disant que on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. C'est bien de faire des bonnes actions pour les pauvres. Mais soi-disant vouloir aider, Ils ne comprenaient pas en fait le message. Et la volonté, la bonne volonté pure de cette femme. D'ailleurs, cette histoire d'embaumage avec l'huile a été racontée dans les quatre évangiles. On voit, on entend toujours cette histoire de cette femme, qu'on n'ignore même pas son nom, qu'on ignore même son nom. Pour dire que, oui, c'est une femme qui a porté des fruits, c'est une femme qui a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur recherche en nous. Pas juste une apparence de piété, mais la foi véritable comme cette femme qui a pu donner tout ce qu'elle avait, cette pauvre femme, veuve, et aussi l'autre femme qui a pu aussi verser son huile pour le Seigneur Jésus. Voilà ce que je voulais parler ce matin, que nous puissions vraiment, oui, examiner nous-mêmes pour grandir dans la foi. J'aimerais aussi vous dire que, oui, on ne peut pas toujours porter des fruits parce qu'il peut y avoir des saisons basses, une saison creuse où ça ne va pas. On ne peut pas être tout le temps en meilleure forme spirituelle. Mais le plus important, c'est qu'on ne soit pas un arbre stérile où il n'y a aucune chance de porter des fruits, mais qu'on soit toujours en bonne voie pour aller de l'avant. Que le Seigneur vraiment nous bénisse, nous donne sa grâce pour porter des fruits, qui est aussi une expression de notre amour envers notre Seigneur. Amen.